Ce soir, nous accueillons Olivier Rollin pour votre livre « Jusqu'à ce que mort s'en suive » qui est paru en début d'année chez Gallimard. Alors, j'ai quelques scrupules à vous présenter. À présenter un écrivain aussi connu que vous.
Oui, il y en a encore beaucoup qui ignorent mon existence, malheureusement.
Alors, je vais dire quelques mots. Donc, vous avez été journaliste, puis éditeur, et puis écrivain romancier, avec plusieurs prix. Le prix Fémina pour Port-Soudan en 1994, le prix France Culture pour Tigre en papier en 2003, et puis on peut citer Le Météorologue, Vider les lieux. Ouais, c'est quelques-uns de vos titres. Et votre œuvre...
L'Invention du monde, c'est un titre auquel je tiens. L'Invention du monde, oui, qui est apparu en, je ne sais plus, 93, je crois, 14 peut-être.
D'accord, et puis beaucoup d'autres. Il y en a quelques-uns qui sont exposés là-bas. Et votre œuvre interroge l'histoire, la politique, les utopies. Et c'est le cas dans ce livre-là, dans « Jusqu'à ce que mort s'en suive ». Alors, je ne vais pas raconter l'histoire, mais plutôt pour commencer, je vous propose de lire un extrait pour nous mettre directement dans l'intrigue.
D'accord, oui. Donc je vais lire la première page, tout simplement.
Et voilà, le début.
Oui, ça vous va? Bon. Je la connais un peu, mais... Le livre n'est pas divisé en chapitres, il est divisé en deux parties quand même, Paris la première et Londres la seconde. Il n'est pas divisé en chapitres, donc, mais en séquences, enfin, moi j'appelle ça comme ça, qui à chaque fois sont désignées par une date et un lieu. Voilà. Donc ça c'est la première séquence. Englefield Green, 19 octobre 1852. Un pré dans les environs du château de Windsor. Autour, les bois ont la couleur de l'automne. Dans les lointains, le miroir de la Tamise, les fumées de Londres. Des écharpes de brume stagnent dans les creux que le pâle soleil de midi commence à dissiper. Deux groupes de trois hommes, de sombres vêtus, coiffés de haute forme, peut-être certains portent-ils un bowler, un chapeau melon dont la mode commence à se répandre. On fait sauter les seaux fermant un paquet de forts papiers contenant les pistolets. On lance une pièce pour savoir qui tirera le premier. Du talon, on écrase des cigares dans l'herbe humide. Dos à dos, les duellistes s'éloignent de 20 pas chacun, pistolets tenus contre eux, canons au ciel. S'arrêtent, se retournent. L'un est grand et fort, l'autre plus petit, trapu. Ce sont deux révolutionnaires français exilés en Angleterre. Le grand costaud, Frédéric Cournet, un ancien officier de marine, qui a gagné le tirage au sort, avance de 10 pas, lève le chien, abaisse son arme, vise soigneusement. Le petit, Emmanuel Barthélemy, un ouvrier mécanicien, immobile, se met de profil afin d'offrir la moindre cible possible. Ils se haïssent, il n'est pas prévu de quartier. Au cas où le duel au pistolet n'aboutirait pas, ils ont convenu de continuer à l'épée. Bientôt, l'un des deux sera mort. Victor Hugo, en quelques lignes, a évoqué cette histoire dans un chapitre des Misérables. Elle m'a paru suffisamment étrange et romanesque pour que me vienne le désir de la reconstituer du début jusqu'à la fin. C'est ce livre. Voilà.
Merci. Donc, voilà, on commence par un duel. On commence par une intrigue. Qui des deux va gagner ce duel? Et puis, on commence aussi par une intrigue. Vous partez d'une courte digression des Misérables de Victor Hugo, qui met en scène ces deux personnages, donc Emmanuel Cournet et Barthélemy. Emmanuel Barthélemy, pardon, et Frédéric Cournet. Deux hommes révolutionnaires, aussi très différents. Expliquez-nous ce point de départ.
Eh bien, bon, il se trouve que j'ai lu deux fois Les Misérables. C'est plutôt un défaut que j'ai qui m'a conduit à lire deux fois Les Misérables. le défaut qui est très embêtant d'ailleurs pour un écrivain, mais enfin il y a des moyens de se débrouiller avec, c'est que je n'ai aucune mémoire. Bon, et donc j'ai lu, j'ai très peu de mémoire, ou en tout cas très bizarrement foutu, et très, très, bon. Et donc j'avais lu une première fois Les Misérables en 2000. J'ai un élément qui me permet de me souvenir que c'était en l'an 2000. Et puis, après, je les avais plus ou moins oubliés. Et comme je devais participer à des rencontres il y a, je sais pas, 6 ou 7 ans, autour de Hugo, je me suis dit qu'il fallait que je relise Les Misérables. Donc en les relisant intégralement, je suis tombé sur ce premier chapitre de la cinquième partie, qui est une digression, et où apparaissent ces deux personnages. Ils apparaissent très brièvement et on ne les reverra plus. Ils n'ont aucun rôle dans la grande dramaturgie des Misérables. Bon. Alors, d'abord, il faut expliquer. Il faut expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ce chapitre-là. C'est donc une digression. C'est le premier chapitre de la cinquième partie. C'est le moment où Hugo se remet à écrire Les Misérables. Il a cessé d'écrire ce livre en 1848. À l'époque, le bouquin s'appelle Les Misères. Après, il a fait beaucoup de choses. Il a eu une activité politique considérable. Il a lutté contre le coup d'État du futur Napoléon III. Et il s'est exilé à Jersey d'abord, et puis ensuite à Guernesey. Il a écrit beaucoup de choses, l'essentiel de la légende des siècles, les châtiments contre Napoléon III, etc. Enfin bon, bref. Et donc là, on est l'hiver 1860-1861. Il est installé à Guernesey, dans sa maison, Hauteville House, qu'il ne quittera plus. Et il se remet à écrire Les Misères, qu'il appelle dorénavant Les Misérables. Et c'est le début, c'est le moment, c'est le premier chapitre, c'est par là qu'il commence cette histoire. Alors, il raconte comment étaient les deux plus grandes barricades des journées de juin 1848. Et les deux chefs, selon lui, de ces deux plus grandes barricades, c'était donc mes deux personnages. C'est une digression parce que 1848 n'a rien à faire dans l'histoire des Misérables. Je veux dire, la barricade des Misérables, là où meurent Gavroche, Enjolras et les autres, c'est en 1832. Bon. Alors, il fait cette longue digression où il revient sur ce qu'étaient les journées de juin 48 et l'insurrection de juin 48. Et, à mon avis, la raison de cette digression qu'il ne donne pas lui, c'est qu'il est embêté par son rôle, le rôle qu'il a eu en 48. Parce qu'en 48, pendant les journées de juin, il a été contre les barricades. Bon.
Il n'était pas du côté de Cournet et Barthélémy.
Il n'était pas du côté de Cournet et Barthélémy. Il n'a pas été un combattant. Il n'a pas tiré à coups de canon ou de fusil sur les barricades. Il a même essayé, dans la mesure du possible, de faire que trop de sang ne soit pas versé. Il a même planqué des insurgés qui étaient poursuivis, etc. Mais enfin, il était quand même du côté de l'ordre, du côté des généraux, du côté de Cavaignac, que le peuple considère à juste titre comme un boucher, du côté du général Lamoricière, du côté des généraux qui viennent de conquérir l'Algérie d'une façon qu'on connaît maintenant. Enfin bref, bon, il était de ce côté-là. Et maintenant, quand il recommence à écrire les Misérables, il a complètement changé. Il a complètement changé. Il est devenu, en 1848, il est encore presque royaliste. Enfin, le roi Louis-Philippe vient d'être viré, mais il était ami du roi. Il est un grand personnage. Il est pair de France, etc. Bon, en 1860-61, il est devenu l'incarnation de la République, le grand exilé, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là, etc. Enfin voilà. Bon. Donc il a complètement changé. Et je pense que ce chapitre, où il s'interroge sur ce qui est de façon un peu, avec beaucoup de circonvolution, beaucoup de contorsion, même sur ce qu'étaient les journées de juin 48, il dit voilà, les journées de juin 48, l'insurrection de juin 48, c'était une insurrection du peuple contre lui-même. Et donc, il fallait, par amour même du peuple, il fallait combattre cette insurrection, il fallait combattre le peuple. Enfin, bon, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Et c'est une façon qu'il a, enfin la justification de ce chapitre, qui encore une fois dans le roman n'a rien à faire, c'est est-ce que j'avais si raison que ça d'être du côté où j'étais en juin 48. Bon, pardonnez-moi, je suis un peu long, mais voilà, c'est ça.
C'est une sorte de justification, enfin,
oui,
en tout cas de
justification, mais très entortillée et qui n'est pas très plausible, enfin, pas très convaincante, à vrai dire. Bon, bref, toujours est-il qu'à l'occasion de cette justification, il décrit quand même les barricades, etc., et surgissent ces deux personnages qu'on ne reverra plus, sauf dans mon livre.
Qu'on ne reverra plus dans Les Misérables, mais dont vous faites un roman entier.
Oui.
Alors, des personnages, qu'est-ce qui a retenu votre attention et pourquoi justement en faire un livre ?
Ben, ce qui a retenu mon attention, on va dire, c'est au début, c'est une curiosité, c'est la curiosité, voilà, une curiosité presque enfantine, qui s'est transformée ensuite en une curiosité d'enquêteur, mais je me dis d'abord, est-ce que ces deux personnages existent vraiment ? Est-ce que, bon,
alors, c'est ça, ça aurait pu être des personnages inventés par Hugo.
Ça aurait pu être, mais à ce moment-là, on les verrait reparaître dans le roman. Bon, or là, bon, tac, juste, il y a une page où ils apparaissent. Et d'autre part, dès le début, je vois qu'ils ont vraiment existé, puisque ce chapitre, cette digression donc, des Misérables, Hugo laisse entendre très nettement que ce sont des choses vues, comme pour prendre le titre du recueil qui paraîtra après sa mort. Bon, c'est la seule fois dans tous les Misérables où il emploie le pronom « je » pour parler de lui. Dans le reste du roman, quand il parle de lui, il dit l'auteur de ses pages ou l'auteur de ses lignes, l'auteur de ses pages absent de Paris depuis longtemps, etc. Enfin voilà. Bon, là, il dit je me souviens, c'est-à-dire une très belle scène. Il décrit donc la mitraille, la barricade, enfin l'une des deux barricades, etc. Et puis il dit je me souviens d'un papillon blanc qui volait dans la rue au milieu des coups de feu, etc. Bon, donc. Ils ont manifestement existé, et je me dis, mais pourquoi ? Puisque Hugo dit, voilà, qu'ils étaient les deux chefs des deux brigades, mais qu'après, ils se sont retrouvés à Londres, qu'ils se sont battus en duel, que l'un a tué l'autre, et que celui qui a survécu au duel a fini pendu en Angleterre. Voilà, donc c'est ça qui excite ma curiosité, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Voilà, et donc je commence... Mais au début, sans avoir du tout même l'intention d'en faire un livre, je commence à me renseigner, comme quand on raconte, on a vend une histoire à Bracadabrante, on a envie d'en savoir un peu plus, quoi, voilà.
Et donc, alors on ne dira pas qui a tué qui.
Oui, si
on
je crois
gardera le suspense.
Je serai obligé sans doute. Enfin, souvent, j'essaye de ne pas dire qui gagne le duel. Mais après, ça m'amène à moi aussi à des contorsions, à dire celui qui a gagné le duel, celui qui a... etc. Bon. Donc je crois que je serais obligé de vous... Bon, dans le livre, jusqu'au coup de feu fatal, je ménage le suspense et on ne sait pas qui va gagner. Bon, mais...
Alors justement, ça entretient le suspense pendant les deux tiers du roman, on va dire, parce qu'avant d'arriver au duel, vraiment, à la révélation... Mais surtout, ce qui est étonnant tout au long de votre livre, et je pense tout au long de votre travail de recherche, c'est que ces hommes ont existé, il leur arrive à chacun, enfin leur vie est romanesque.
Oui, très, oui. Oui, oui, mais c'est ça qui... C'est ça, donc, passer le premier déclenchement de la curiosité, etc. Bon, je commence à progresser, je commence tout simplement par regarder dans Wikipédia, etc., où il y a très peu de choses, d'ailleurs, mais ça me renvoie à d'autres trucs, d'autres sites, etc. Et je m'aperçois que leur vie est en effet extraordinairement romanesque. Bon, l'un est un ancien officier de marine que Hugo présente comme venant de la tempête, etc. Enfin, il en fait une espèce de dieu Neptune. Bon, et à vrai dire, je découvre assez vite qu'il n'était pas ça. Il était même un très beau. Enfin, je ne sais pas quelles étaient ses qualités techniques, mais il était extrêmement indiscipliné, il était tout le temps collé aux arrêts, etc. Il fait le désespoir de ses supérieurs, des amiraux. Il y en a un qui écrit au ministre en disant « c'est un officier perdu », etc. Enfin bon, il est criblé de dettes, enfin bref, il a tous les défauts possibles vis-à-vis de sa hiérarchie, et finalement il démissionne de la marine, il est républicain quand même, ce qui en plus ne le fait pas très bien voir dans la marine de Louis-Philippe, enfin bon, voilà. Donc ça c'est l'un des personnages, l'autre c'est un ouvrier, bon, et qui a, à l'âge de 17 ans, tirer sur un sergent de ville, qui l'a blessé extrêmement légèrement, très très légèrement, au point que le flic en question n'a même pas eu une journée d'arrêt de travail. Ça n'empêche que il est condamné, il a beau avoir 17 ans, il a beau ne pas avoir à peine passé le flic, il est condamné au bagne à perpétuité. Donc je découvre qu'il y a le bagne de Brest. Bon,
résonne aussi avec Les Misérables.
Pardon ?
Ce qui résonne avec Les Misérables, avec Jean Valjean.
Il y a le bagne de Toulon, mais voilà, oui, en effet. Mais il y a beaucoup d'événements qui résonnent, enfin qui, voilà, et dont sans doute Hugo s'est un peu inspiré pour l'histoire des Misérables. Bon. Donc voilà, et puis ensuite, il est donc en effet chef d'une des barricades de juin 48. Je ne vais pas raconter toute son histoire, mais voilà, je vois que leur vie. Jusqu'à la fin, jusqu'à la potence à Londres et la mort de l'un dans un pré des environs de Londres et la mort de l'autre sous la potence. Bon, toute leur vie est absolument furieusement romanesque. Voilà. Donc ça me donne envie. Pardon. Ça m'arrive souvent d'ailleurs d'écrire comme ça. Je commence par casser les oreilles de mes amis en leur racontant des histoires, tous les soirs. Et puis, à force de leur casser les oreilles avec mes histoires, je me dis pourquoi ne pas l'écrire, voilà.
Alors un roman captivant, un thriller, on pourrait dire, enfin une enquête policière en tout cas que vous menez, une enquête historique. Avec un travail de documentation, on y reviendra sans doute plus tard, très très poussé, pour documenter, pour découvrir les détails de la vie des deux personnages. Un roman aussi, donc un multiple facette, avec une narration qui n'est pas linéaire. On l'a vu, Victor Hugo lui-même fait des allers-retours, vous, c'est ce que vous faites aussi, dans la vie des personnages, et puis vous revenez aussi parfois au présent. Donc vous éclairez aussi un peu l'histoire actuelle par l'histoire romanesque. Oui. Comment est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
de
ces allers-retours et puis oui. Est-ce que l'histoire du passé éclaire notre histoire du présent?
Est-ce que l'histoire du passé éclaire Oui, forcément. Enfin, je veux dire, nous sommes tous, nous sommes héritiers du passé, qu'on le veuille ou non. Est-ce que précisément les journées de juin 48 Ce qui est certain, c'est que la France est un pays et le reste, certains s'en félicitent et d'autres pas, mais reste un pays potentiellement insurrectionnel. Bon, au XIXe siècle, puisqu'il y a donc deux parties, Paris, parce que le début de leur histoire se passe à Paris, jusqu'aux barricades et jusqu'au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, et puis Londres, parce qu'après ils sont réfugiés là-bas. Il y a beaucoup de différences entre Paris et Londres. Londres est la ville de la grande, enfin déjà de la naissance de la grande industrie, etc. Ce qui n'est pas Paris, mais Paris, c'est la ville des insurrections. Voilà. Au XIXe siècle, il y a grosso modo une insurrection tous les 10 ans. Enfin bon. Il y a Walter Benjamin dans son livre sur Paris, capitale du XIXe siècle, a une statistique, je ne sais pas où il l'a trouvée, mais j'ai oublié le chiffre aussi, mais enfin, il cite le nombre de millions de pavés qui ont été déchaussés et entassés pour faire des barricades. Bon, bien, donc c'est la ville des insurrections et bon, le XXe siècle ne sera plus vraiment un siècle insurrectionnel, encore qu'il y a eu, je parle sans compter des combats de la libération de Paris, bien sûr, mais il y a eu aussi mai 68, dont certains dans cette salle se souviennent. Et, pardon ? Oui, le 22 mars, et puis ensuite les...
Ah, et oui, bon sang, nous oui. Sommes le 22 mars.
Oh, pardon. Ah oui, non, mais je vis dans une, comment dire, un flou complet du calendrier. C'est le 22 mars. Bon, alors d'accord. Bon, alors voilà. Enfin bref, cette histoire insurrectionnelle, oui, elle a des. Enfin, on peut en voir des suites, même dans notre temps. Mais du coup, j'ai oublié votre question.
Aussi sur le choix de passer de l'époque. Du 19e siècle à notre époque actuelle, vous commentez, vous faites parfois des incises.
Oui, oui, ben, je veux dire, je me mets en scène non pas pour m'exhiber, enfin non pas par exhibitionnisme, mais de temps en temps j'interviens en effet, enfin c'est à la différence de, je crois avoir travaillé avec la même rigueur qu'aurait eu un historien pour mon enquête, mais à la différence sans doute de ce que ferait un historien, oui, en effet, j'interviens de temps en temps. D'abord, je ne laisse pas ignorer les moments où l'enquête s'enfonce dans un cul-de-sac. Elle en ressort, heureusement. Mais enfin, j'aurais pu supprimer ça. Non, je ne le supprime pas. Et puis, je fais part, en effet, de temps en temps, de réflexions que ça m'inspire, notamment de réflexions, en effet, l'époque de 68, puisque bien sûr j'en étais, beaucoup en étaient, etc. Beaucoup de mes lecteurs, je le vois soir après soir, en étaient. Je ne vois pas de raison que le livre se présente comme une chose tout achevée et qui tombe de ne sais quel ciel. Je trouve qu'il est bien, qu'il raconte, que le livre raconte sa propre histoire aussi. Voilà. Et puis j'aime bien aussi retourner sur les lieux, enfin aller plutôt sur les lieux qui ont vu des événements passés, qui ont vu par exemple les barricades à Paris. J'aime bien, j'ai besoin même de voir ce que sont devenues ces rues-là, de voir si quelque chose reste de la fureur et de la poudre d'il y a un siècle et demi, un peu plus. Voilà.
Justement, je voulais vous questionner là-dessus, parce que vous décrivez, vous expliquez que vous êtes allé sur les lieux en France, en Angleterre. Vous allez aussi, vous faites un petit détour en Espagne sur les lieux aussi où est allé Cournet. Voilà. Donc ça vous nourrit de vous rendre sur place, même si tout a changé?
Oui, enfin, je ne sais pas si ça n'ajoute rien à l'enquête à proprement parler. Mais moi, ça me donne de l'excitation, donc ça me donne de l'énergie, pour écrire cette histoire. Et puis, comme écrivain, comme romancier aussi, parce que ça, c'est pas vraiment un roman, mais une chose à laquelle je suis extrêmement sensible, qui m'émeut, quoi, c'est de découvrir les traces du passé dans le présent, les traces physiques, les traces matérielles, etc. Même quand, et plus elles sont infimes, plus il y a pour moi de l'émotion. Dans un livre, si vous avez cité un livre qui s'appelle Le Météorologue, c'est l'histoire d'un citoyen soviétique qui va être, comme beaucoup, des centaines de milliers, accusé injustement et qui finira exécuté. Bon, je suis allé sur les lieux aussi, et à un moment j'ai trouvé, donc c'était un chemin au bord de la mer Blanche, et sous le chemin apparaissent quelques traverses de la voie de chemin de fer qui a disparu complètement, mais qui amenait dans les wagons à bestiaux les déportés jusqu'à un port. Bon, voilà. Eh bien, de découvrir ça, ça n'ajoute peut-être rien à l'enquête que j'ai faite sur ce personnage, le météorologue. Mais moi, ça me donne de l'émotion, ça me communique de l'émotion, donc de l'énergie, et je pense que ça en communique au lecteur aussi. Voilà. En tout cas, il était important pour moi, oui, de retrouver le pré sur lequel ils se sont battus en duel, de retrouver les carrefours parisiens où se tenaient les barricades, etc.
Et aussi
et de voir ce que c'est devenu, je décris à un moment deux immeubles qui étaient déjà là, puisque les gravures de l'époque les montrent. Bon, et puis en bas, il y a un McDo. Alors donc c'est les mêmes, et puis c'est quand même pas du tout les mêmes. Et puis non, d'un côté il y a un McDo, mais de l'autre côté aussi il y a un bistrot qui a été ensanglanté par les tueurs djihadistes le jour du Bataclan, là, du Bataclan et des terrasses, comme on dit. Bon, donc voilà, ça ne fait pas partie de l'enquête, mais si,
c'est des traces.
Savoir qu'est-ce que c'est que le paysage où tout ça s'est passé, c'est important pour moi.
Et c'est des traces qui s'ajoutent aux histoires passées. Oui. Vous avez une description, des descriptions assez précises de Paris, du Paris de 1848, et vous faites justement toute une enquête à la fois sur la géographie des lieux à l'époque, et vous avez une réflexion sur l'évolution, alors des traces qui ont pu rester, ces immeubles-là, ou la métamorphose de Paris, après les grands aménagements
haussmanniens. Oui, ils s'en vont, ils sont obligés de quitter Paris, enfin ils fuient Paris, l'un en 1849 et l'autre en 1800, dans les premiers jours de janvier 1852, enfin après le coup d'État de Napoléon III, là, enfin du futur Napoléon III. À ce moment-là, je me suis dit, ils s'en vont de Paris, ils ne reverront jamais Paris, puisqu'ils vont mourir tous deux à Londres. J'ai envie de faire un portrait de Paris au moment où Paris va complètement être transfiguré ou défiguré par Haussmann. Au moment où ils s'en vont, Paris ressemble encore beaucoup de traits de la ville du Moyen Âge. Alors évidemment, comme dans tout le bouquin, j'ai un dialogue modeste. Hein, je veux dire, je me prends pas pour avec Hugo. Encore une fois, je me tiens à ma place. Je suis pas l'équivalent de Hugo, mais j'aime bien, comme c'est un écrivain que j'aime et que j'admire, qui m'énerve aussi quelquefois, j'aime bien qu'il y ait de loin en loin ce dialogue avec lui. Alors évidemment que je pensais aussi au fameux chapitre de Notre-Dame de Paris, qui s'appelle Paris à vol d'oiseau, où il y a une description absolument incroyable de à quoi ressemblait Paris en 1400, je ne sais plus combien. Bon, j'avais un petit peu ça en tête. Bon, voilà, c'est pourquoi j'ai fait ce portrait de Paris. Et portrait d'un Paris, en effet, qui a totalement disparu à cause du Second Empire et d'Haussmann. Bon, il en reste des tout petits bouts, mais... Et puis du coup, ils arrivent à Londres... Je me suis dit, oui, mais il faudrait aussi dire un peu à quoi ressemblait Londres au milieu du 19e siècle.
Vous faites la même chose avec Londres. Et là, vous dialoguez, il y a beaucoup de références aussi, beaucoup de références dans votre livre, et notamment avec Dickens, à Londres.
Oui, plus avec Dickens, je me suis renseigné beaucoup dans Dickens, mais aussi dans des enquêtes sociales de l'époque. Londres, c'était à l'époque donc la plus grande ville du monde, et c'était surtout la révolution industrielle avait commencé à Londres, alors qu'elle avait à peine commencé à Paris. Et donc, ce qui fait que c'était une ville absolument noire et qui était surmontée par un dôme de fumée noire, puisque donc il y avait des centaines de cheminées, d'usines, de fabriques, et qui toutes... carburaient au charbon de terre, comme on disait, c'est-à-dire au charbon. Et donc la ville baignait dans une espèce de brouillard noir. Alors ça, on trouve ça dans Dickens, bien sûr, mais il fait souvent allusion à ça. Il y a un personnage de Bleak House qui arrive à Londres et qui croit qu'il y a un incendie quelque part, parce qu'il y a de la fumée partout dans les rues. Mais non, c'est l'atmosphère normale de Londres. Bon. Et à la fin, quand l'un des deux va être pendu, la neige qui tombe est une neige, en partie noire. Et bien, j'ai oublié. Oui, je me suis servi aussi, de Dickens, mais d'enquête sociale, puisque il y avait des philanthropes, etc., qui enquêtaient sur la condition des pauvres à Londres, qui était encore infiniment plus atroce qu'elle l'était à Paris, à cause justement de la naissance de la grande industrie, quoi. Et donc les quartiers de l'East End où vivait le sous-prolétariat de l'époque qui était des Irlandais dans l'ensemble, c'était des conditions absolument effarantes. Enfin, je cite quelques rapports, je ne vais pas tout raconter là, mais c'est inimaginable de d'horreur, quoi.
Vous décrivez en quelques mots effectivement des situations abominables, des conditions de vie abominables. Vous faites en parallèle, justement, entre l'époque où les deux personnages arrivent à Paris et aujourd'hui à Londres. Vous dites finalement la condition des migrants à Londres était la même que la condition des migrants qui arrivent chez nous aujourd'hui.
Oui, non, je dis surtout... Non, elle est même...
comparable.
Oui, elle est comparable. Non, je dis surtout... on ne se rend pas compte de ce qu'étaient donc ces gens qui fuient la France, qui traversent la Manche, et qui arrivent dans un pays qui est complètement inconnu pour eux. Ils n'en parlent pas la langue, et en général, ils ne la parleront pas, même après des années. Ils n'y connaissent personne, etc. Et donc, je dis, on ne se rend pas compte de ce que c'était, enfin, de l'énorme bouleversement que c'était, quoi. De la même façon qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est que... Enfin, la seule chose qui sera peut-être comparable, c'est en effet ce qu'on appelle maintenant, le sort de ce qu'on appelle maintenant les migrants, enfin, qui essaient de traverser la Manche eux aussi, etc. Voilà, c'est ça, je fais la comparaison, en effet, de ces deux conditions. Même si, à vrai dire, le sort des migrants est pire. Bon, parce que tout de même, les autres... il y a quand même quelques, ils ont déjà quelques, il y a d'autres exilés qui sont déjà là-bas, il y a un peu des trucs d'entraide, etc. Enfin, bon, c'est un peu moins dramatique pour eux, mais c'est quand même une situation complètement dramatique, sauf évidemment, enfin, là encore, il y a bien sûr des différences de classe. C'est-à-dire que il y a des bourgeois dans les migrations. Pour le Dru Rollin, par exemple, qui est un homme qui joue un certain rôle, puisque le Cournet, l'officier de marine, est un partisan de Le Dru Rollin, bon, avocat, républicain, etc. Pour Le Dru Rollin, la vie n'est pas abominable là-bas. Pour Victor Schœlcher, enfin, que vous connaissez, l'abolition de l'esclavage, etc., Victor Schœlcher est aussi un émigré républicain. Bon, ça va, c'est un bourgeois, il vit comme un bourgeois. Victor Hugo, avec tout son courage, voilà, il n'a pas de soucis matériels. Tandis que les types qui sont ouvriers comme Barthélemy, ou instituteurs comme un autre dont j'oublie le nom à l'instant, mais enfin, etc. Enfin bref, la grande masse des exilés, pour eux, les conditions de vie là-bas sont vraiment terribles. Ils n'ont pas de boulot, ils ne trouvent pas de boulot, etc. Ils vivent dans la rue, quoi.
Alors, justement, vous évoquez la position des deux, de Barthélemy et Cournet. Cournet, un bourgeois, Barthélemy, ouvrier. Ils se retrouvent donc sur cette barricade en 1900, sur ces deux barricades. Hein, ils dirigent chacun une barricade en 1848. Et donc, ils se rencontrent réellement à Londres. Et
c'est oui, là où ils se rencontrent quelques jours avant le duel fatal. Oui.
Tout à fait.
Mais simplement, ils connaissent mutuellement l'existence de l'autre, et ils se détestent quand même parce qu'ils sont, d'abord, ils sont à tous égards, physiquement, psychologiquement, etc., des tempéraments absolument opposés. Et puis surtout, Barthélemy, c'est un ouvrier, donc, et c'est un partisan de Blanqui. Bon, Blanqui, à l'époque, c'est l'ultra-gauche. Blanqui, c'est le théoricien et praticien de l'insurrection. C'est l'enfermé. Il a passé presque toute sa vie en prison, et c'est un peu l'ancêtre de Lénine, quoi. Bon, l'autre donc est l'officier de marine. Là, il est donc partisan de Le Dru Rollin, c'est-à-dire encore une fois d'un républicain assez radical, mais enfin, il n'est pas pour l'extermination de la bourgeoisie comme l'autre, alors, puisqu'il est lui-même un bourgeois. Voilà.
Donc on a deux... Ils sont du même côté sur les barricades, mais ensuite, tous les opposent politiquement. Voilà. Enfin, ils s'en posent fortement. Avec... vous décrivez deux figures. La figure un peu de... je vais le dire autrement. Voilà. Est-ce que, justement, ils sont à un moment dans la Révolution ? Est-ce que c'est deux types de révolutionnaires qu'on peut retrouver ?
Oui, mais il ne faut pas... Oui, mais alors, j'ai pensé à ça. Enfin, Hugo, d'abord, Hugo, il aime les contrastes, les oppositions, etc. Donc, il dit, il y en a un colossal, truculent, etc., l'officier de marine, là, et puis l'autre, maigre, chétif, sinistre, tout ça, bon, l'ouvrier. Bon, on sent tout de suite où vont ses préférences.
On sent la sympathie voilà, pour l'un bon, et moins pour l'autre, voilà. Tout à fait.
Bon, alors, en plus, c'est assez exagéré, cette opposition, je dans l'enquête, je m'en aperçois, mais enfin bon... j'ai oublié.
Donc, oui, ces deux figures-là, deux révolutionnaires au même moment, à un instant, au même endroit à un instant, enfin du même côté à un instant.
Alors, j'ai pensé au fil de l'enquête, etc. Je me suis souvenu d'un livre un petit peu oublié maintenant qui s'appelle Le portrait de l'aventurier de Roger Stéphane et Sartre avait fait une préface, Sartre qui est lui-même un petit peu oublié, avait fait une préface à ce livre, et où Sartre distingue, de façon un peu trop schématique, mais enfin bon, il dit, voilà, dans les grands mouvements révolutionnaires, il y a toujours le type du, ce qu'il appelle le militant, c'est-à-dire en fait celui que la nécessité sociale pousse à devenir un révolutionnaire. Bon, là c'est évidemment Barthélemy. Et puis, il y a ce qu'il appelle, lui, Sartre, l'aventurier, qu'aucune nécessité sociale ne pousse à cela, mais justement le goût de l'aventure, le goût de tromper la mort, d'avoir une vie qui ne soit pas une vie...
Le côté un peu romanesque aussi.
Le sens de l'aspiration romanesque, le goût de la fraternité, etc. Enfin bon, bref, des choses qui ne sont pas... de l'ordre de la contrainte matérielle, quoi. Voilà. Donc l'aventurier et le militant. Alors évidemment, dans ce cas-là, oui, évidemment, Cournet, c'est l'aventurier. Rien ne le pousse, aucune nécessité sociale ne le pousse à faire ce qu'il fait. Et Barthélemy, c'est le militant. Et du coup, je réfléchis un peu, peut-être à tort, enfin, c'est une des incises que je fais à ce que nous étions, enfin moi par exemple, il y a 50 ans et quelques de cela, quand nous pratiquions les pensées et les gestes et les de la révolution. Quoi. Est-ce qu'on était plutôt des aventuriers ou plutôt des militants, voilà.
Moi, ça m'a fait penser, alors je ne sais pas, justement, vous allez me dire, pendant la guerre d'Espagne, avec les deux camps aussi qui sont finis par... tuer les...
Dans la guerre d'Espagne, autres. Il y avait, enfin, du côté des internationaux, il y avait évidemment plus... Orwell est plutôt un aventurier qu'un militant, bon, voilà. Mais aventurier, ça n'est pas du tout péjoratif, enfin, ni dans la... là que donne Sartre, ni dans, encore moins dans mon esprit à moi. Au contraire, il y a même quelque chose une générosité supérieure, puisque finalement rien ne les y oblige.
Et est-ce que ces deux figures sont forcément amenées à s'opposer entre l'aventurier et le militant ?
Non, pas forcément, mais ça arrive souvent. Et là, dans ce cas-là, ça arrive parce qu'ils se retrouvent dans un... D'abord, comme je ne vais pas me répéter, mais enfin, ils appartiennent à des factions qui ne sont pas les mêmes. Et puis, se trouvant à Londres, c'est un milieu, le milieu des exilés est un milieu incroyablement petit, d'abord quelques centaines de personnes, complètement coupées de la France, complètement coupées aussi de la vie anglaise. Et qui est agité par des soupçons paranoïaques, dire chacun voit en l'autre un mouchard possible, etc. Bon, et donc voilà, ça explose très facilement dans cette atmosphère confinée, et il se trouve que voilà, l'un, Cournet, va propager une calomnie sur l'autre, et à partir de ce moment-là, la haine devient irréversible.
On va essayer de garder le secret, hein, quand même.
Jusqu'à présent, oui, mais je crois que c'est un secret de polichinelle, mais enfin bon.
Vous avez fait un important travail d'investigation dans tout ce roman, de recherche. Comment avez-vous fait ?
Eh bien, je pensais que ce serait très difficile, et en fait, ça a été plutôt très facile. Une fois, je ne devrais peut-être pas le dire, je devrais, je je devrais laisser croire que j'ai fait des années de mais non, c'est pas vrai. Enfin, j'ai travaillé quand même pendant, je sais pas, 8 ou 9 mois uniquement à me documenter. Mais je dois dire, moi qui suis tout à fait impotent numériquement, enfin comme beaucoup de gens de ma génération, je me suis quand même débrouillé. J'ai été aidé par une amie essentiellement qui était documentaliste et qui s'y connaissait un peu. Mais voilà, mais une fois qu'elle m'a inscrit sur les sites, par exemple, où il y a la presse numérisée, alors qui en France s'appelle, de façon comique, ça s'appelle pas en français, ça s'appelle Retro News. Bon, alors que le site anglais de la British Library, lui, ne s'appelle pas en français, il s'appelle British Newspaper Archive. Mais une fois qu'on est sur ces sites-là, il y a tous les journaux, en remontant même jusqu'au XVIIe siècle, etc. Bon, mais voilà, il y a tous les journaux du XIXe siècle. Et par conséquent, en France, j'ai pas trouvé grand-chose d'ailleurs, mais en Angleterre, étant donné que les moments les plus dramatiques, enfin le duel, le double meurtre, la pendaison, etc., se passent en Angleterre. Alors là, il y a des centaines de pages dans la presse britannique sur cette histoire. Bon, donc ça a été long, mais ça n'a pas été si compliqué, en dépit de ma maladresse. Bon. Et puis il y a aussi beaucoup, j'ai consulté aussi beaucoup de souvenirs, enfin de mémoires de d'acteurs de l'époque. Bon, alors là c'est plutôt en France, mais qu'on trouve aussi en général sur internet, enfin sur Gallica, sur le site de la BnF. Donc voilà, il a fallu que je me procure quand même à prix d'or quelques livres qu'on ne trouvait pas sur Gallica, quelques cartes, non, les cartes, la plupart aussi, les cartes de l'époque, enfin, on les trouve aussi. Enfin, bref, ça n'a pas été très compliqué. Le seul dossier d'archives que j'ai matériellement parcouru, en papier, quoi, c'est les états de service du marin, là, où je suis allé au service historique de la Défense, au château de Vincennes. Où il y avait absolument toutes ses dettes, et les lettres furibardes de ses supérieurs et tout ça. Voilà, mais sinon, ça a été long, mais assez facile, et à cause de l'aisance que donne Internet, quoi.
Donc finalement, c'est assez... C'est incroyable de voir que à partir donc de ces deux personnages, cette courte incise, il y a eu d'informations qui racontent leur vie, et surtout en Angleterre effectivement, et qu'on trouve encore des traces des lieux du duel en Angleterre.
Alors on trouve l'endroit où est mort celui qui va mourir dans le duel. Cet endroit, c'est une auberge et elle existe toujours, et j'y ai même fait un excellent repas en contemplant une bande de vieux et de vieilles tout vêtus de noir qui étaient là pour un repas d'enterrement, et donc je me faisais l'effet d'être un jeune homme, moi. Et enfin voilà, l'endroit existe toujours. Quant au pré où s'est passé le duel, il est signalé par rien. Mais je suis sûr à 95% de l'avoir retrouvé, parce que la topographie n'a pas beaucoup changé. Je veux dire, ce qui était un chemin qui s'appelle à l'époque Priest Hill Road, s'appelle toujours Priest Hill Road, sauf que c'est une route départementale. Enfin, ça ne s'appelle pas comme ça là-bas, mais enfin bon, ça est bitumé, quoi. Mais enfin bref, ça n'a pas beaucoup changé. Donc je suis sûr d'avoir retrouvé aussi le pré où ils se sont battus. Non, oui.
Et voilà, dans la recherche documentaire et tout le travail d'historien que vous avez fait.
Oui, oui, voilà.
C'est aussi un livre d'histoire très documenté.
Oui, voilà. Encore une fois, c'était pas nécessaire, mais pour moi, c'était nécessaire de retrouver ces lieux. Alors, l'endroit de la potence n'existe plus. La potence elle-même n'existe plus, comme vous le savez. Et l'endroit de la potence n'existe plus, puisque c'est là où maintenant a été construit le palais de justice, quoi, de Londres, le Old Bailey. Mais j'ai eu la chance de tomber, parce que quand ils vont, les condamnés allant vers la potence, et là il y a des scènes dans Dickens, franchissent une porte qui s'appelle Debtor's Door, la porte des débiteurs. Et c'est un personnage, si j'ose dire, de certains romans de Dickens. Et heureusement, j'ai retrouvé, enfin j'ai pas eu de mal d'ailleurs, parce qu'il y avait une exposition sur la peine de mort à Londres dans les siècles anciens, et cette Debtor's Door était exposée. C'est une chose absolument terrifiante, entrelacement de barres de fer, etc. Enfin, bref, oui, j'ai retrouvé tout ce que j'ai pu retrouver comme lieu et comme trace.
Très bien, merci. Donc un roman historique, un roman d'aventure.
Oui.
Et un roman très étroitement lié au Misérable et à la vie de Victor Hugo.
Oui, enfin, il me plaît. J'ai dit au début que l'étincelle première, ça avait été la curiosité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ensuite, enfin non, même dès le début, j'étais content aussi que ça vienne des Misérables. Parce que je n'ai pas eu toujours quand j'étais étudiant, par exemple, outre le fait que quand j'étais étudiant, j'étais extrémiste et que je lisais pas de livres, mais quand même, avant j'en avais lu, après j'en lisais aussi, et on lisait pas Hugo. Hugo, on considérait que c'était une vieille barbe, quoi. Et je suis heureux de voir que progressivement il redevient le personnage, enfin l'écrivain stupéfiant qu'il est, quoi. C'est-à-dire qui manie absolument tous les registres. Et on peut, en l'occurrence, moi, il y a certains registres que j'aime moins que d'autres. Bon, il y a des côtés. Je dis à un moment, je prends cet adjectif anglais que je trouve merveilleusement expressif, qui est bombastique. Les Anglais en général de l'époque trouvent que les Français sont bombastiques, c'est-à-dire que le mot dit bien ce que ça veut dire, quoi. Ils en font beaucoup, ils parlent, tout ça. Alors Hugo, de temps en temps, il est bombastique, en effet. Bon, je propose de dire qu'on francise l'adjectif, on dit bombastique, c'est tout, bon, avec un T-I-Q, enfin bref. Bon, mais en tout cas, il est aussi un polémiste incroyablement cinglant et violent et admirable, quoi. Je veux dire, le bouquin que je cite assez souvent là, qui s'appelle L'histoire d'un crime.
Vous questionner ensuite dessus. Donc, allez-y, parlez-nous d'Histoire d'un crime.
L'histoire d'un crime, c'est le récit, c'est absolument extraordinaire. C'est le récit des trois jours de la tentative de résistance contre le coup d'État donc de Louis-Napoléon Bonaparte, le 2 décembre 1851. Donc une partie des députés, la gauche de l'Assemblée en l'occurrence, menée par, et puis quand même des gens du peuple, menés par Hugo et par Cournet, là, bon... essaie de résister pendant trois jours. Donc il y a une multiplication de barricades, surtout des combats de nuit, etc. Bon, voilà. Bon, et l'histoire d'un crime, c'est l'histoire du coup d'État et de la résistance au coup d'État. Et ça, c'est absolument passionnant. Ça se lit, oui, de façon, oui, comme un c'est un reportage, en effet, si l'on veut. Mais ça se lit avec... oui, avec une excitation, comme si on ne savait pas quelle va être l'issue de ça. On sait très bien quelle va être l'issue. On sait que la résistance va être écrasée et que le prince-président Bonaparte va devenir l'empereur Napoléon III. Bon, mais pourtant, ça se lit avec... Enfin, il réussit à maintenir la curiosité, l'attente. Enfin, bon, c'est absolument formidable. Et d'autre part, c'est d'une violence polémique extraordinaire. Enfin, à un moment, il parle d'un général qui fait partie, bien sûr, de la bande de Napoléon, enfin de Badinguet, là, de Louis-Napoléon Bonaparte, du coup d'État, quoi. Et ce général a eu la joue, un cheval lui a bouffé une joue. Et Hugo dit, ainsi, il ne lui restait qu'une joue pour recevoir les soufflets. C'est quand même... C'est cogne.
C'est violent, oui. Et donc, un livre que vous affectionnez, que vous citez effectivement...
Oui, parce que c'est en dehors de donc Cournet dans Hugo, dans Les Misérables, il fait une petite apparition, je ne vais pas revenir là-dessus, mais en revanche il en est un peu question dans l'histoire d'un crime, parce que encore une fois c'est un des, avec Hugo, c'est un des organisateurs de la résistance au coup d'État, quoi. Et il y a entre les deux, enfin il y a entre les deux, je me plais à croire ça, j'en suis sûr d'ailleurs, il y a entre Hugo et Cournet un peu l'admiration réciproque, quoi, du côté de Hugo, de l'homme de lettres pour l'homme d'action, pour le condottiere, et de l'autre côté, évidemment, aussi de l'homme d'action pour le grand écrivain, etc. Bon. Et, enfin bon, on retrouvera ça un peu très brièvement à Londres, où Marx et Barthélemy seront un peu dans le même rapport, parce que Barthélemy va connaître Marx, bon, et voilà, il y a Marx admire le combattant, etc., dans Barthélemy, et puis très vite il va s'apercevoir que c'est quand même un type dangereux, et
leur relation va cesser. Hein, oui, assez extrême dans ses pensées,
voilà, c'est un aventurier,
ses projets. Voilà.
Oui. Justement, enfin, bon, il y a cette fascination comme ça de celui qui, parce que Marx c'était pas un combattant, c'était pas, enfin, il n'avait pas d'expérience des barricades, etc., il s'était pas évadé de prison, il n'avait pas été au bagne, il n'avait pas, voilà, et donc il est fasciné par cette espèce de guerriero.
Justement, Barthélemy qui apparaît comme un personnage beaucoup moins beaucoup moins, il y a beaucoup moins d'affection, on éprouve beaucoup moins d'affection pour Barthélemy.
Oui, sauf à la fin. À la fin, il est assez émouvant. Mais c'est un fanatique, oui, c'est un type implacable. Bon. Encore qu'il y a plusieurs points de vue sur lui, puisqu'il y a cette comtesse ou baronne, je ne sais plus, allemande, qui est exilée aussi, qui est un peu socialiste, qui est exilée à Londres, et qui est amoureuse de lui, qui trouve que c'est un type timide. Alors ça n'apparaît pas d'après les autres témoignages, mais et qui dit que c'est un type qui, et non, c'est un homme qui réfléchit beaucoup, puisqu'il y a une autre personne qui a de l'admiration pour lui et qui est pourtant absolument pas d'accord avec lui politiquement, mais c'est Herzen, qui est un émigré russe, lui, bon, qui est un intellectuel, bon, qui ne partage pas la fureur anti-bourgeoise de Barthélemy, mais il est admiratif devant sa façon de parler. Justement, il trouve que c'est un des rares Français qui ne soit pas bombastique, qui parle peu, mais de façon acérée. Enfin, voilà. Donc c'est un personnage très complexe, et c'est pour ça que, oui, je l'aime pas beaucoup. Enfin, souvent, je ne l'aime pas beaucoup, mais à vrai dire, ma position vis-à-vis de lui ne cesse de faire fluctuer, quoi.
D'accord, merci. Alors, vu qu'on n'a pas encore révélé la fin, on va essayer de s'arrêter là. Très bien, merci. Et donc, séance de dédicace, oui, maintenant, si vous le souhaitez. Merci beaucoup.